Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzoui, ce qu'on dit les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous. Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Le président de la République et le Premier ministre envisagent le pire. C'est la raison pour laquelle, pour la troisième fois, a été réuni un conseil de défense ce soir au Palais de l'Élysée. L'exécutif est donc sur le pied de guerre. La France compte 3 cas de contamination au coronavirus recensés à l'Assemblée nationale, 2 députés et 1 salarié. Le journal du Dimanche s'inquiète avec un article dont le titre est une question. Si le président était atteint, que se passerait-il? Bref, la politique française est contaminée par le coronavirus, Romain Ouzoui.
Et le sujet, effectivement, était à la une des émissions dominicales. Mais la politique, vous allez le voir, ne reste jamais très loin. Illustration avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, et donc soumis à quelques règles. Après, vous l'avez dit, quelques cas de contamination à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens qui ne se gêne pas pour adresser un petit tacle au gouvernement.
J'ai effectivement renoué avec le thermomètre. Bon, je ne fais jamais guère que 49,3 de température, tout va bien. Non, trêve de plaisanterie, il faut dire une chose, c'est qu'on peut par contre craindre une conjugaison de plusieurs crises qui pourraient effectivement aggraver la situation. À la fois la crise du coronavirus, mais également la grippe saisonnière et bien évidemment la situation de l'hôpital public en même temps.
Voilà, l'hôpital public en souffrance, en pleine crise du coronavirus. Donc le message de l'insoumis Adrien Quatennens, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Alors globalement, il y a une sorte d'union sacrée dans la classe politique au sujet du coronavirus. Peu de voix dissonantes sur la gestion par les autorités de l'épidémie, excepté certaines venues de l'extrême droite. Ce que n'a pas manqué de souligner ce dimanche Agnès Buzyn sur Radio J.
Moi, je crois qu'il faudra être attentif à ce que certains ne s'emparent pas d'une crise sanitaire qui est gérée au mieux par les autorités et surtout tous les professionnels de santé qui sont engagés aujourd'hui en première ligne pour essayer de se faire mousser. Je vois déjà certains...
Vous pensez à qui, par exemple?
Je pense à l'extrême droite.
Exactement,
à Monsieur Dupont-Aignan et à Madame Le Pen qui ont d'ores et déjà commencé à utiliser cette crise en expliquant qu'il suffit de fermer les frontières. Il n'y a pas un scientifique au monde aujourd'hui qui ne vous dira pas que on ne peut pas fermer les frontières à un virus, ça n'existe pas.
L'ex-ministre de la Santé, donc désormais candidate de La République En Marche à la mairie de Paris, Agnès Buzyn. Les personnalités politiques qui se sont surtout ce dimanche attelées à rassurer à une semaine du premier tour des élections municipales, il n'y a aucune inquiétude à se rendre dans un bureau de vote, a rappelé Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement.
Quand on vote au municipal, d'abord, on vote par nature dans le territoire où on est résident. Et donc, on est sur un lieu où on est de soi. Le mode d'élection est un mode confiné, si je peux dire. C'est pourquoi on essaie d'éviter les grands rassemblements de plus de 5000 personnes, les espaces confinés, un certain nombre de mesures sont prises.
C'est pour éviter que le brassage
vienne diffuser plus rapidement qu'on ne le souhaite le virus à l'ensemble du territoire national. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Quand vous votez, vous n'êtes pas confiné à 5000. Vous êtes dans un bureau de vote où vous passez généralement assez peu de temps. Simplement rappeler à l'entrée des bureaux de vote que... on ne serre pas les mains, que les mesures qui s'appliquent à l'extérieur du bureau de vote s'appliquent à l'intérieur du bureau de vote.
Marc Fesneau, à 7 jours donc du premier tour des municipales, ministre chargé des relations avec le Parlement et invité ce dimanche du grand rendez-vous européen, c'est News Les Échos.
Alors tout ce qu'on vient d'entendre provoque plusieurs questions. Frédéric Dabi de l'IFOP, dans ses études, votre institut de sondage constate d'abord cette inquiétude des Français. Moyenne, vive?
Oui, elle est relativement forte. Dans une enquête IFOP pour illico med.com, on avait un niveau d'inquiétude de 61% des Français inquiets pour eux et pour leur famille. C'est 26 points de plus que ce qu'on mesurait en 2009 pour la grippe A. C'est plus que ce qu'on mesurait pour Ebola en 2014. Inquiétude, mais pas de panique. Pas de panique parce qu'on a le sentiment que le gouvernement a plutôt bien communiqué, même si la confiance dans le gouvernement a plutôt fléchi du fait de l'inquiétude des Français. On n'est pas sur une logique du Lubrizol. On avait eu l'impression que le gouvernement n'avait pas communiqué, ne savait pas, avait plutôt caché des choses. Et puis les Français sont plutôt bien informés sur les bonnes pratiques, sur les bons gestes. La question, c'est les adoptent-ils? Mais voilà, le niveau d'inquiétude est fort et ce qui à 8 jours du premier tour des élections municipales, crée une coloration de cette fin de campagne très, très étrange.
Alors justement, la campagne, il y a des meetings qui ont été annulés à Lyon, à Bastia, à Ajaccio. Oubliez les poignées de main et les bises qui sont un incontournable des campagnes électorales, notamment sur les marchés. Tout cela est inédit, finalement.
C'est absolument inédit. C'est une drôle de campagne. Elle avait déjà été un petit peu parasitée par le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle avait commencé extrêmement tard. Là, on est sur une blitz campagne, une campagne par à-coup, voire parfois à l'arrêt. C'est avec la proximité que jouent les candidats sur le terrain, sur les marchés, serrer la main, faire la bise n'est plus, si je puis dire, de mise. Dans une enquête très récente de l'IFOP pour Paris Match et Sud Radio, on voyait que 87% des Français avaient parlé dans leur conversation du coronavirus. Seulement 53 des élections municipales. On a un point de comparaison assez intéressant. Mars 2014, à la même époque, ils étaient 60% à en avoir parlé. C'est pas un effondrement, mais ça annonce peut-être une abstention plus forte qu'en 2014, dans un contexte où ce n'est pas une vraie surprise. L'élection municipale, pour reprendre votre terme, Philippe Le Caplain, est un peu contaminée par le phénomène abstentionniste. Il n'y avait que 30% d'abstention, 31% en 2001. On était à 38-39% dans les grandes villes en 2014.
Et là, on ne parle pas des sujets politiques. On parle de la peur de se rendre dans un bureau de vote où il va falloir toucher le stylo pour émarger qui a été touché par bien d'autres personnes.
Cette peur est possible. Je ne crois pas à ce que les bureaux de vote soient désertés. En tout cas, on anticipe à l'IFOP plutôt une abstention plus forte qu'en 2014. Dans une enquête très récente pour le même site illico.med.com, on avait un quart des Français qui se déclaraient inquiets à l'idée d'aller dans un bureau de vote. Inquiétude ne veut pas dire rester chez soi, mais c'est vrai qu'il y a des élus, notamment les maires sortants, qui s'inquiètent d'avoir leur base, notamment les personnes âgées, peut-être moins aller voter. Il y a une sorte d'hypothèse. Est-ce que l'électorat âgé, qui est souvent favorable aux maires sortants, aux maires de droite, va moins aller voter? Ça pourrait changer la donne. Ou bien, est-ce que les catégories davantage touchées par le phénomène abstentionniste, les jeunes, les catégories populaires, vont, entre guillemets, profiter de cette crise sanitaire pour ne pas aller se rendre dans les bureaux de vote? Et puis, les bureaux de vote se tiennent dans des écoles. On a appris qu'à Ajaccio, les bureaux de vote étaient fermés. Il y a le département de l'Oise, je crois, si je me trompe pas.
Absolument. Voilà. En termes logistiques, ça pose un vrai problème.
C'est une véritable, c'est un monstre logistique, hein.
L'organisation, trois scrutateurs.
Tout à fait.
Donc, allez savoir si un certain nombre d'entre eux vont pas dire, bah, écoutez, moi, cette fois-ci, je passe mon tour.
C'est une véritable inconnue à 8 jours, à 7 jours du scrutin. D'ailleurs, c'est le deuxième scrutin local de suite en France qui est relativement inédit, qui se déroule dans une atmosphère particulière. En 2015, aux élections régionales, on était dans le contexte de post-attentat du 13 novembre. Il y avait une inquiétude très forte chez les Français. Il y avait l'armée devant certains bureaux de vote. Ça fait, une fois de plus, un scrutin particulièrement étrange. Ça ne pourra pas ne pas avoir d'effet sur les résultats, puisque la participation, c'est la donnée centrale. Une élection, avant de regarder le rapport de force, qui a gagné ou qui a perdu dans telle ou telle ville, c'est d'abord un différentiel de participation entre un ou plusieurs camps, ou une ou plusieurs catégories qui va aller voter plus fortement, et d'autres qui vont s'abstenir. Donc c'est la donnée centrale.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut IFOP.
Philippe Le Caplain.
Dans une semaine, donc à cette même heure, hormis les grandes villes, l'heure sera déjà au dépouillement de ces bulletins de vote pour savoir qui deviendra ou redeviendra maire, sachant qu'il y a 36 000 communes en France. Autant dire que la campagne électorale entre dans sa toute dernière ligne droite, à l'image de ce qui se passe à Paris. Demain, il y aura un meeting de Rachida Dati en présence de Nicolas Sarkozy, la candidate de LR qui participera à mardi à un nouveau débat télé, retransmis d'ailleurs sur Radio France, avec les autres têtes de liste, Romain.
Rachida Dati d'ailleurs, qui a le vent en poupe dans les sondages, désormais annoncé en tête à l'issue du premier tour à Paris, avec un point d'avance sur la maire sortante, la socialiste Anne Hidalgo, et la candidate LR qui, au second tour, pourrait bénéficier d'un report des voix d'Agnès Buzyn, la candidate La République En Marche. Ça ne fait pas de doute pour David Belliard, lui aussi en course à la mairie de Paris pour le parti Europe Écologie Les Verts.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit qu'il y a un rapprochement entre Agnès Buzyn et Rachida Dati. C'est une alliance qui est une alliance régressive, c'est une alliance anti-écologiste qui est en train de se préparer. Face à cette alliance, eh bien moi, ce que je propose, ce que je souhaite, c'est une coalition pour le climat. C'est une coalition pour Paris.
Avec Anne Hidalgo, avec Villani.
Avec Cédric Villani, avec Anne Hidalgo, sous réserve que nous trouvions évidemment des points de convergence. Nous ne sommes pas d'accord sur tout.
Voilà, donc l'alliance attend tendue à gauche entre Anne Hidalgo et les Verts pas acquise, affirme David Belliard, qui s'exprimait ce matin sur France Inter. Quant à l'alliance qu'il vient d'évoquer à droite entre Rachida Dati et Agnès Buzyn, eh bien celle-ci est balayée par cette dernière, Agnès Buzyn, invitée du forum Radio J ce dimanche.
En réalité, Madame Dati ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner seule parce que elle n'arrivera pas à faire basculer un certain nombre d'arrondissements. Donc en réalité, le vote en faveur de Madame Dati est un faux vote utile. En réalité, c'est une impasse. Le seul vote utile est le mien, puisque je suis le seul aujourd'hui en capacité de rassembler pour changer utilement la vie des Parisiens. Je pense que je suis la seule alternative crédible aujourd'hui.
Agnès Buzyn, qui était annoncée en troisième position dimanche prochain et qui continue de croire donc à une qualification pour le second tour à Paris. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir pour la capitale, mais d'une manière générale, comment considérer ces élections locales dans le contexte de contestation à l'égard du gouvernement ? Le Rassemblement national ne se cache pas pour appeler un vote sanction. Et du côté de la France insoumise, eh bien, on ne dit pas vraiment le contraire. À l'image du député Adrien Quatennens.
Moi, je ne vais pas résumer l'élection municipale à un vote sanction, mais si nous avons l'occasion de faire d'une pierre deux coups, pourquoi s'en priver ? Effectivement, il faut que partout se sache dans le pays que les candidats LREM sont les candidats la retraite en moins et qu'il se pourrait bien, si les Françaises et les Français décident d'utiliser, eux, leur 15-3, c'est-à-dire leur 15 mars, après que le gouvernement ait utilisé son 49-3, eh bien, que nous puissions, dès dimanche prochain, imposer une motion de censure citoyenne, et je considère effectivement qu'elle serait salutaire.
Voilà, avec une nouvelle allusion au 49-3 par Adrien Quatennens ce dimanche sur RTL. Réponse de la majorité avec Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je pense qu'une élection municipale ne répond pas tout à fait à l'équation classique des élections. Les élections régionales, les élections européennes, évidemment les législatives, sont des élections par nature à fort enjeu national. Là, on est dans une équation qui est une équation dans lequel le sortant a une prime, incontestablement, toujours. Il y a une forme d'inertie du système, et c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, une forme d'inertie du système qui fait que le sortant, dès lors qu'il a un bilan correct, dès lors qu'il n'y a pas eu de division dans sa majorité, il a une capacité de résistance qui est assez forte à toutes les vagues qui pourraient naître.
L'analyse de Marc Fesneau ce dimanche sur Europe 1.
Frédéric Dabi, quels sont les thèmes qui intéressent les Français dans ce scrutin municipal, sachant que votre institut, l'IFOP, a cherché donc à savoir, et vos résultats sont publiés aujourd'hui dans le journal du dimanche.
Oui, il y a différents thèmes, hein, qui peuvent motiver le vote et qui peuvent mobiliser la participation. Il y a un diptyque, hein, qui arrive en tête dans les grandes villes et même dans les villes de taille moyenne, c'est le diptyque sécurité-propreté. La sécurité était déjà en tête en 2001, hein, un an avant le 21 avril 2002. Elle arrive nettement en tête et souvent, on l'associe à la question de propreté. Une ville propre, c'est une ville dans laquelle on se sent en sécurité. Une ville sale, on ne s'y sent pas bien. Donc, dans les grandes villes, c'est vraiment ce diptyque-là, sécurité-propreté. Il y a aussi la thématique environnementale, qui peut expliquer aussi la poussée des Verts dans de nombreuses villes, aussi bien la lutte contre pollution et la lutte contre le dérèglement climatique. Beaucoup de maires sortants, pas seulement des écologistes, on parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure, ont enfourché ce thème et en font un véritable cheval de bataille. Il y a aussi des thématiques plus social, le logement, et également, parce que la crise des gilets jaunes, la question du pouvoir d'achat n'est pas très loin, la question des impôts et des finances de la ville. Il n'y a pas un thème qui l'emporte sur l'autre, même s'il y a une coloration sécuritaire qui est particulièrement forte dans les villes les plus importantes.
Et c'est le cas de Paris d'ailleurs, donc Hidalgo, Dati, Buzyn pour les trois têtes de liste. L'IFOP surveille bien sûr de très près ce qui se passe dans la capitale française.
Oui, on a réalisé beaucoup d'enquêtes pour le JDD avec Fiducial et une dernière la semaine à venir. Il y a une véritable incertitude qu'on a jamais vu à Paris. Un sondage d'un de mes confrères donne Anne Hidalgo en tête, nous on donnait Rachida Dati d'un point. Chaque prétendante a ses points forts et ses faiblesses. Anne Hidalgo a des réserves de voix en Europe Écologie Les Verts, ce qui pourrait lui assurer la victoire dans le cadre de triangulaire, mais son bilan reste contesté, notamment sur propreté sécurité. Rachida Dati connaît une véritable dynamique, elle était autour de 15-16% au mois de septembre, mais elle n'a pas de réserve de voix et elle est encore très loin de l'étiage de Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014, qui avait obtenu 35,5%. Et Agnès Buzyn, malgré son entrée en campagne réussie, malgré un potentiel électoral plus fort que celui de Benjamin Griveaux, autour de 19-20%, et d'une part très loin du socle électoral d'Emmanuel Macron, 35% dans la capitale, et elle n'a pas réussi à troubler le retour de l'opposition gauche-droite, bloc contre bloc, qui structure le champ politique parisien. On écoutait différentes interventions. La question du second tour des alliances va être absolument capitale, mais Chaque chose en son temps, c'est d'abord le premier tour et la mobilisation des différents camps avant de parler d'éventuelles alliances au deuxième tour et puis d'un troisième tour hypothétique comme Paris est régi par la loi PLM.
Et puis Le Havre, c'est là que Édouard Philippe, le Premier ministre, est candidat. Et là encore, votre institut, l'IFOP, s'est penché sur les intentions de vote des électeurs.
Tout à fait, avec CNews et Fiducial. Intéressant de voir que Le Havre va être un point particulièrement observé. Le Premier ministre est candidat. Il avait obtenu 52%, il était passé au premier tour en 2014 dans le cadre de la vague bleue des municipales. Là c'est particulièrement serré, 42% face à un bloc de gauche qui fait 25% pour le Parti communiste et 16% pour Europe Écologie Les Verts. Alors c'est pas de l'arithmétique une élection, est-ce que c'est 25 et c'est 16 s'additionnent? Personne ne peut le dire. En tout cas, il peut être embarqué, si je puis dire, dans un second tour compliqué, d'autant plus que le Rassemblement National est en mesure de se maintenir. Alors, en positif, il a peut-être fixé un électorat de la gauche qui veut sanctionner Édouard Philippe. Et en négatif, ça peut transformer cette triangulaire en un duel, en un référendum pour ou contre Édouard Philippe. Sa situation est, je dirais, compliquée, même si il est nettement en tête. Et si les chiffres de ce sondage sont confirmés, ça peut créer une dynamique irrésistible.
Alors Frédéric Dabi, vous êtes politologue. Qu'est-ce que vous surveillerez, vous, particulièrement, à ce scrutin municipal la semaine prochaine et la semaine suivante?
On en a déjà parlé. La participation, c'est absolument fondamental. C'est la première donnée. Est-ce que les Français sont allés voter? Qui a voté? Quel est le profil des abstentionnistes? Et puis les maires sortants. Il faut pas oublier que les municipales constituent l'élection de la stabilité. L'élection où la règle, ce n'est pas le dégagisme. Même en 2014, trois quarts des maires ont été reconduits, mais une élection où reconduit les sortants.
Donc la prime aux sortants,
c'était dit tout à l'heure et c'est tout à fait juste. Est-ce que ça va être bousculé? Et puis En Marche, qui pour la première fois est confronté à un scrutin local, ça sera une soirée sans doute très compliquée pour ce parti, puisqu'on sait que le vote aux élections municipales repose sur une alchimie entre bilan, projet et incarnation. En Marche étant un jeune parti,
n'existait pas lors de la précédente.
Il n'y a pas de bilan. Il a peiné à incarner un macronisme municipal. Et la plupart du temps, ses candidats sont peu connus. Ils ne se présentent pas partout. Et souvent, il soutient des maires sortants, mais qui seront, je dirais, comptabilisés plus à droite qu'en Marche.
Vous y faisiez allusion tout à l'heure, le poids des écologistes, alors que les électeurs disent leur souci pour un développement plus durable.
Oui, c'est sans doute la force qui va confirmer son succès des élections européennes, ce qui là aussi est véritablement inédit. En temps normal, les européennes n'annoncent jamais la tendance du scrutin suivant. Ils sont particulièrement forts dans des villes de gauche où le maire socialiste ne se représente pas. Il pourrait l'emporter à Besançon, à Strasbourg, à Rouen, avec Jean-Michel Bérégovoy. Lyon, ils sont également bien placés. Sans doute, dans les villes où le maire sortant socialiste ne peut pas bénéficier de la prime au sortant parce qu'il ne se représente pas, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une recomposition ou un passage de témoins avec un bloc de gauche autour d'Europe Écologie des Verts. Soyons prudents, il y a beaucoup de villes aussi où ils sont avec les insoumis, il y a différentes configurations. Est-ce que ça sera le poids des sortants qui sera le principal enseignement ou cette poussée Europe Écologie des Verts ou bien une poussée du Rassemblement National en dehors des villes d'où il est sortant? C'est vraiment une des inconnues de ce scrutin, avec peut-être le retour de l'ancien monde. Les sortants sont le plus souvent issus des Républicains et du Parti Socialiste. Sans doute, et je ne me mouille pas beaucoup, le résultat sera beaucoup moins catastrophique qu'aux élections européennes.
Une dernière chose, les municipales, c'est un scrutin on ne peut plus local, bien évidemment. Tous essaieront d'avoir une lecture nationale.
Ça va être toujours la lutte au soir du premier tour et du second tour, c'est-à-dire d'essayer d'imposer une lecture du scrutin. Alors, il n'y a peut-être pas un scrutin national, c'est le scrutin local par excellence. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, devant la Bérézina qu'avait connue la gauche, François Hollande avait dû remanier et sacrifier son Premier ministre en faveur de Manuel Valls. En Marche, qui était en tête aux élections présidentielles via Emmanuel Macron, deuxième aux élections européennes, sera sans doute la quatrième, voire la cinquième force, peut-être, ou sans doute la quatrième force. Tout ça ne pourra pas ne pas avoir d'effet politique.
Merci beaucoup Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. La politique encore demain matin sur RFI, ce sera Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui sera l'invité de la rédaction. Et puis mardi politique recevra Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis la semaine prochaine, pas de dimanche politique, mais une soirée électorale à partir de 19h30, heure de Paris, sur RFI. J'aurai le plaisir de l'animer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.
Le Figra.